viol.
Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre, une vraie conversation d'une heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans l'émission Featuring, comme j'ai l'habitude de le dire. Si ça s'appelle Featuring, c'est parce qu'on est en featuring avec un artiste. Aujourd'hui, cet artiste-là, c'est un mec qui nous vient du Val d'Oise, mon 95, qui m'est très très cher. Seth Gecko, comment vas-tu?
C'est bien lui en chair et en saucisse, ça va. On sort, sort de justesse de ce Covid infernal.
Ouais.
Et voilà, il faut pas confondre featuring et fuite d'urine, hein. On est d'accord?
Ça y est, c'est parti. Joli chapeau de roue.
Oui.
Bon, j'aimerais qu'on commence par le commencement, donc le début. Je parle du début pour toi, le rap.
Ouais.
Si tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que tu viens de Saint-Olomone.
Tout à fait.
Et qu'à Saint-Olomone, avant toi, il n'y a pas une personne ou un groupe qui a explosé sur la scène.
Non, il n'y a rien autour de nous, quoi.
Okay.
Je me rappelle que les premiers trucs que j'écoute du 95, bah, c'est Minister Hammer, tu vois.
Mm-hmm.
Et même juste le fait d'avoir une cassette enregistrée d'eux, mm-hmm. et de les écouter, on faisait quand même genre une bêtise de ouf. On disait, non, mais attends, c'est incroyable, c'est la secte Abdoulaye, c'est que des Renois, ils n'aiment pas les Blancs. Là, je me disais, attends, je suis un rebelle de ouf, j'écoute une musique... tu vois, oh, et du coup ça paraissait tellement loin en fait, et aujourd'hui des Sergi qui est à 10 minutes de chez moi en scooter,
mm-hmm.
on avait aussi le rappeur comment il s'appelle, Diable Rouge, qui était là-bas,
mm-hmm.
de Time Bomb,
mm-hmm.
et bah pour nous c'était un truc de fou, c'était méga loin en fait, tu vois.
Okay.
Quand t'es jeune en fait, c'est peut-être Paris, le 95 vers chez toi, Sarcelles, ouais. etc. Nous,
c'est loin. C'est loin. Ouais, on est dans le même département.
Mais c'est à l'opposé, ouais, exactement. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Mais ouais, je viens de Saint-Olomone, donc il n'y avait pas de rappeur émergent, mm-hmm. connu, qui aurait pu nous aider.
Okay.
Mais on était des niches de gens, on aimait les mêmes choses. Généralement, ceux qui aimaient bien le basket, et ils aimaient bien le peura aussi. Donc on se retrouvait...
T'aimais bien le basket, toi?
Bah, c'était lié, mais moi j'étais pas encore trop chébran sur le skate-bas, mais j'aimais bien toute la vague des bulles, tu sais, là, ce qu'on regarde, Last Dance de Jordan, on était dedans, les premiers jeux de Super Nintendo avec le NBA, tout ça, j'étais mm-hmm. dedans quand même, mais je n'y jouais pas.
Okay.
Mais je savais apprécier les matchs et le nom des joueurs, je les connaissais tous par cœur et tout.
Okay.
Et tu vois, des Scottie Pippen, Omotombo, tout ça, tous les joueurs, que ce soit des Lakers ou des
Bulls.
Après, il y avait les vêtements qui allaient avec aussi. Donc, on s'identifiait ça, peut-être pas au maillot de basket, mais au starter. Tu vois, les blousons un peu bombers, de toute façon.
Important.
Et bah, tous ceux qui étaient un peu chébrants, ce courant-là, hip-hop, bah, donc c'était Graf, tout et tout. On n'était pas mm-hmm. beaucoup, donc on traînait entre nous. Et puis, ça a fait une association. On a dit, est-ce qu'on pourrait avoir un studio? Est-ce qu'on peut aller en studio, etc. Donc, c'est comme ça que nous, on s'est fait...
Dans la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, vous avez pu demander à la mairie ou je sais pas quoi.
D'avoir un local
ou
un pote. Notre truc s'appelait Assos d'Assas, genre association d'assassins.
Super.
Assos d'Assas.
dès le départ.
Et voilà, on était un petit collectif de rappeurs, on était 5-6 comme ça.
Mais comment ça t'est venu, toi?
Bah moi, c'est d'avoir écouté du rap, d'être fan de rap, de rapper des couplets des rappeurs que j'aimais bien, que c'était Lino.
Premier que t'as entendu.
Rappeur?
Ouais, tu te rappelles?
Bah ouais, hein, c'est la cassette, la formule secrète d'Assassin, c'est celui-là où j'avais accroché le mieux dans Rap Attitude, en fait.
Ok.
Mais j'ai tout eu, tout ce qui est sorti, que ce soit le maxi traître de Minister Hammer, je l'ai eu entre les mains et écouté.
Mm-hmm.
Je me rappelle, ça c'était en classe de neige, j'étais parti avec le maxi Le Monde de Demain, c'était un mini CD. C'est même pas le CD Slim, quand je te parle du maxi traître, je l'avais en CD format Slim. C'est des petits maxi très fins, tu vois. Ça s'appelait le format Slim, le boîtier CD, mais Slim.
C'est des singles, quoi.
C'est des singles, là, il y avait quatre titres. Et j'avais eu le maxi Le Monde de Demain de NTM, mm-hmm. il était tout petit, c'était un CD Rikiki, tu vois.
Ok, les mini-disques peut-être.
Les mini-tout petits, mais c'était un CD, hein.
Ouais,
ça se mettait dans un lecteur CD, mais le format était rigolo, tu vois. J'avais ça en cassette, j'écoutais moi mm-hmm. tout Life Crew, Body Count aussi, parce que mes refrains, ils étaient plus courant rock alternatif. Donc okay. les prémices du rap, je les ai avec eux en mm-hmm. les découvrant, mm-hmm. parce que c'est ce qui succède le rock alternatif, le peur.
Ok.
Après, dès que les Berruriers Noirs, ils ont levé le pied sur la musique, mm-hmm. la souris déglinguée, tous ces trucs-là.
Je me rappelle.
C'est devenu bah, c'est NTM et tout ça qui a pris le relais avec un peu le même discours.
NTM faisait des concerts. Ils faisaient des concerts, les
premières parties sur les mêmes plateaux.
Souris déglinguée.
Souris déglinguée, tout à fait. Et du coup, moi j'ai eu ça, donc j'étais un ovni quand même d'écouter cette musique-là parce que okay. je sais même pas ce qu'ils écoutaient réellement. Les gens, je crois que les rebeux de cité de chez nous, ils écoutaient de la funk. Mm-hmm. Les Africains, ils avaient le patrimoine quinf de la musique. Mm-hmm. Surtout du sud Makossa, tu sais, de Manu Dibango, ou ouais. de Wer, même pas Wer Hassan, ça arrivait largement Kofi. Après Kofi, ouais. mais Papa Wemba, je vais dire, plus, ouais. encore plus ancien. Mm-hmm. Et les Antillais, ils avaient bah, le zouk, le créole, tout ça. Et les Français, bah, nous, on avait soit du. Il y avait les Ardos, qu'on appelait ça. C'était
ouais, je me rappelle.
Les Goths, les métalleux, mais c'est récent, métalleux, ce terme-là.
Ouais. Avant, on disait Ardos.
On disait Ardos, ouais. et c'était péjoratif. Mm-hmm. Et puis les gens qui écoutaient de la dance, il y avait de la dance.
Ouais.
C'était la musique pop, la pop urbaine aujourd'hui et la dance d'antan.
C'est vrai.
Tu vois. Et pour revenir à ça, il y avait beaucoup de rappeurs chanteurs à l'époque. Tu te rappelles, les rappeurs un peu funky, c'était pas les plus forts dans le peura. Tu vois, ouais. je les retrouve un peu aujourd'hui, ces nouveaux rappeurs un peu qui sont là pour le divertissement.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Kamel d'Alliance Ethnique, avec uh-huh. tout le respect qu'on a, lui, qui était ouais. de l'Oise, lui, je crois. Du
ouais,
60.
60, Cray.
Ouais. Il y avait tous ces rappeurs Kamas. Il y a eu Ménélic, un peu un rappeur funky, ouais, il y avait la basse-cour, Réciproque.
Réciproque, ok.
Qui étaient des trucs un peu plus dansants. Mm-hmm. Ils ont toujours existé, en fait, c'est ce rap un peu dansant, mais mm-hmm. pas super validé par le milieu rap pur et dur, puriste et dur.
Là, on parle d'une époque où c'était compliqué, c'est pas ouvert comme aujourd'hui, on va dire.
Ah, tu vois. Ah, ouais. Voilà, pour revenir, je sais même pas pourquoi je suis parti sur ça, mais j'adore parler, j'adore m'écouter.
Il y a pas de problème.
Puis en même temps, ça fait un peu des cours d'histoire à mon fils qui est dans les locaux.
Faut aller chercher les noms, tous les noms qui ont été cités là.
Tout à fait.
C'est important aujourd'hui, Internet, tu trouves tout.
Donc, association, Assos d'Assas, voilà. On rappe dans un truc, et de fil en aiguille, un jour, on se retrouve sur une mixtape. À Génération, on se retrouve à faire un freestyle à Génération. Mmh. À Génération, avant nous, il y a l'équipe Néochrome qui vient freestyler pour la sortie de Néochrome 2, donc t'es dessus.
Ok, ouais.
Et du coup, je croise les mecs, j'accroche avec un mec. Ah, c'est un bon petit gars de cité. Tu sais, parce que quand, entre mecs de cité, on se renifle le cul comme des pites et après on s'apprécie. Ouais. C'est bizarre, hein, quand même, ça va vachement. C'est dep un peu, carrément. Et après, on dit, ouais, putain, mais t'es bon, il y a un potentiel en toi. Attends, je te ferai écouter quand même au producteur Yoni de Néochrome. Okay. Et après, lui, je le revoyais donc. Mm-hmm. Après, un jour, je marche sur les champs, nous, les banlieusards, qu'on allait sur les Champs-Élysées. C'était fête de la musique et 14 juillet, voilà. Les jours de l'an. C'est nos trois seules sorties de l'année. Et je retombe sur ce mec-là. Je dis, non, mais tu te rappelles, on s'était vu et tout. Il était encore avec le producteur de Néochrome.
Mais c'était qui ce mec-là?
Il s'appelle Alassane. Kossa, c'était le rappeur du groupe Abalone qui rappait. Okay. Et aujourd'hui, Recta d'Abalone, il a un studio à Bastille, je crois, il s'occupe de Moral à Squal et tout. Donc chacun a évolué et c'est bien, vie du rap et je suis content pour eux. Mmh. Et lui, il me dit, bah vas-y, viens. Dadadada. En fait, c'est comme s'il avait repéré, c'était un Parisien. Les Parisiens, ils sont vachement plus en avance que les banlieusards. Mmh. Il a dû dire, ouais, il y a un potentiel avec ce petit Babtou qui est fan de Peura. Il est malléable dans le sens où si on lui dit comment il faut bien rapper, facilement, j'arrive à m'adapter en fait. Tu vois, j'étais comme un buvard qui savait. Des fois, je manquais peut-être de références ou de trucs. Il me disait, mais regarde ce gars-là, comment il est. Et j'ai réussi à. Je dis, à un moment donné, je suis le patchwork de mes rappeurs préférés. Je suis le patchwork. Tu vois, je me suis un peu inspiré de tous les mecs que j'aimais bien et de créer quelque chose.
Ça a donné
original.
Quelque chose. Ouais.
Ouais. Et puis voilà, après, le mec de Néochrome, il m'a laissé ma chance. Il m'a dit, ouais, reviens. On a fait un titre, deux titres. Ils n'ont pas été pris. Et moi, du coup, j'ai fait les allers-retours Saint-Olomone, Paris, 19e, pendant toute mon. De 18 à. Bah après, est-ce que tout est sorti Néochrome? Jusqu'à 25 ans, j'ai traîné sur les trottoirs de Marx Dormois.
Okay.
Voilà, à rapper mes couplets pour me faire valider par le 18, le 19 et faire toutes les radios, trucs. Voilà.
Ouais.
Traîner ma bosse.
Mais tu avais un groupe, on peut dire, quand vous étiez.
Une équipe, une team, mais avec que des rappeurs. Solo,
mais qui se rejoignaient. Ok. Donc, du coup, le mec te connecte avec Néochrome.
Ouais.
Tu bosses avec eux.
Ouais.
Et c'est là que tout ça va aboutir à ton premier street album, c'est ça qu'on disait?
Ouais, alors même avant ça, Néochrome, en fait, c'était des cassettes révélateurs de talent, révélatrices, pardon, et en développement. Donc, on s'est servi de Néochrome 3 pour me faire connaître.
Ok.
Après, ils avaient fait le format CD pour la première fois, après la mixtape cassette. ils ont voulu faire l'album Néochrome, donc en présentant un peu les artistes qui genre signaient chez le label, mais bien sûr c'était des contrats moraux qu'on se traîne encore aujourd'hui, par fidélité et loyauté, tu vois.
Parce que tu clames encore Néochrome aujourd'hui.
Ouais, c'est comme un nom de famille en vrai, tu vois, c'est comme un mariage, et j'ai encore le nom du mariage, il n'y a pas eu de divorce en tout cas.
C'est bien, c'est rare.
C'est rare, ouais. Et voilà, donc c'est ça. Après, ils m'ont fait un maxi du morceau que, voilà, en fait, ils ont bien misé. Ils m'ont fait faire un solo bien mis en avant sur Néochrome 3 qui s'appelait Crimino, sur un sample d'Amélie Poulain, produit par Loco, qui était le deuxième producteur et fondateur du label Néochrome.
Qu'on salue.
Voilà, qui est aujourd'hui aussi qui a un studio un sur studio. Nation et qui bosse sur des gros trucs et tout. Et Yoni qui bosse aujourd'hui sur Gizmo et tout. Donc voilà, tous les mecs avec qui j'ai commencé, ils sont encore dans le jeu. Là. Et gros big up à eux. Et voilà, donc le solo marche bien. Du coup, j'en fais un maxi. Le maxi me sert de carte de visite. Et là, comme toi, je suis venu à toi à Gare de l'Est, je me rappelle, dans un square à pigeons incroyable où je te débitais des conneries. Mais tu te rappelles ou pas? Je suis venu avec mon pack de CD par boîte de 25. Tiens,
Driver. Tu sais que ça a commencé d'abord aux Champs-Élysées dans cette boîte de nuit, tu te rappelles?
Avant ça? Tu penses qu'il y a eu la rencontre où je te faisais la petite danse du diablotin?
Exactement. La danse du
Michael Torrey, la danse du diable.
J'ai rencontré cette gecko, il dansait. Il m'a fait une danse incroyable.
Et quelle fierté de bah c'était les premières fois de ma vie qu'on me reconnaissait en fait. Donc je sais pas quand il m'avait reconnu. Driver me dit mais t'es pas le rappeur cette gecko. Et là c'est un truc de ouf.
Je suivais tout.
J'étais à l'affût de tous les petits artistes émergents et bons rimeurs, je suppose.
Important.
Je te vois quand tu fais tes interviews et tout. T'es sensible à en tout cas à l'écriture et aux artistes.
C'est important pour moi.
Surtout du 9-5.
Donc du coup ouais, quand je te vois, tu viens me parler mais je te reconnais.
Ouais.
Et tu m'as marqué, tu m'as fait rire.
On était mort de rire dans des marches. Je sais pas si tu te rappelles.
On est resté dans les marches, on était pas dans la boîte, on était sur le côté.
T'étais mort de rire, je suis content, j'avais trouvé un mec qui m'écoutait et qui me voyait danser. J'étais fier de mes conneries. J'étais la trappe avant tout le monde en fait. C'était un flow. C'est des DJ Screw et.
T'envoyais. Mais du coup, on s'est échangé les numéros de téléphone.
Ouais. Et là, je suis venu déposer mon projet, mais j'étais en train de faire Barry et Plein, qui est un double CD.
Mais c'est ça que tu m'as. C'est ça que tu m'as offert. C'est Barry et Plein.
Et j'avais tous les. Là, je suis parti avec mon maxi, du coup.
Mais le truc, c'est que tu devais me ramener ton CD.
Ouais.
Tu m'en as donné 20 ou 25.
Mais non.
C'est ça le truc. Mais tu m'as donné un pack. Du coup, moi, chez moi, quand j'arrive chez moi, je distribue un peu autour de moi, tout ça, machin. Donc, j'ai fait tourner la musique, tu vois.
Ah, ouais.
Mais c'était ouf. Moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, attends, le mec, il vient avec un carton. Il me fait partir avec un carton.
Mais ça, c'est parce que je sautais encore les portillons à Gare du Nord et je pense que c'était pas pour m'encombrer ou les oublier quelque part. Non, je rigole. Et du coup, en fait, ce maxi de Néochrome m'a permis de carte de visite quand j'allais démarcher des rappeurs parce que je me suis dit, attends. Pour rentrer dans le game, moi, j'estimais rapper bien. Si je me mets dans le game, déjà, je peux pas me présenter en rappant moins bien que les artistes que j'écoute. Je suis parti voir les meilleurs rimeurs d'élite. La chapelle des rimeurs d'élite, tous autant qu'ils étaient.
Il y a du beau monde.
Ouais, que ça, c'est les Nubis, Salif et XS, Mokles à l'époque, Kennedy, Cynic.
C'est Fiu.
Ouais. Lui, c'était encore lui, il venait de faire. Même pas la vie qui va avec, c'est les prémices de C'est Fiu.
Ouais.
C'était Code 180, non, même pas. C'est sur le Mosque à Gauz et Vlox de Gauz. Il était apparu sur une mixtape de Iqbal ou je sais pas quoi. Je dis non, lui, lourd de fou. Donc, j'appelais les rappeurs au culot, je trouvais les numéros de tout le monde. C'était une époque magique. Ces mecs-là, ils décrochaient à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, les rappeurs, ils ghost, frère. Ils me lâchent des vues. Faut que je revienne dans le game, que je casse des culs parce que ça, je.
Ça a changé.
Je suis grave déçu. T'entends que depuis tout à l'heure, je parle en rime comme. Comme Joey Budden, hein, c'est ça. Je m'exprime avec des rimes. Hein. Casse des culs, grave déçu, lâche des vues.
C'est beau.
Il y a ceux qui lèchent des vitres et ceux qui cassent des culs. C'est beau, mon pépère. Et bah voilà. Donc j'ai appelé tous les rappeurs. Je leur disais, écoutez, je suis le nouveau rappeur de Néochrome. Donc Néochrome, ça leur parlait à tous. Ouais. Ils savaient que c'était un truc, un casting de rappeurs de fou. Et je leur disais, voilà, je suis à nouvelle signature. J'ai envie de faire un feat avec toi. C'est au culot. Hein. J'ai dit, je vais venir dans ta cité. Demain, on peut se voir ou pas? Ouais, non, je les prenais de cours de fou, j'étais un casse-couille.
Ah, t'allais les voir sur place, dans leur cité, tout ça.
Ah oui, c'est-à-dire que moi, je montre, je suis un petit babtou, je suis tout seul, je viens dans ta cité déjà. Donc c'était aussi, moi, pour montrer et m'affirmer, de dire, c'était comme ça qu'il faut les apporter son truc, son nom et ses couilles, tu vois. Et j'ai envie de faire un feat avec toi. T'as le droit de dire non, juste laisse-moi te déposer un CD et je te rappelle après. Et je peux te dire qu'en déposant mon maxi à tous les rappeurs, il n'y en a aucun qui n'a pas posé.
Donc toi, tu étais déjà sûr de ta
musique. J'étais sûr de
moi.
J'ai dit, là, mes titres, là, écoute celui-là. Mm-hmm. Dis-moi si on peut rapper ensemble. Mmh. Après, ils pouvaient ne plus jamais en rappeler.
Bien sûr.
Après, ils disaient, ah ouais, lourd, j'ai écouté, franchement, lourd de ouf. Vas-y, viens, on fait un feat.
Il n'y en a aucun qui a refusé à cette période-là ?
Non. Il n'y en a aucun que je n'ai pas
eu.
Après, moi, j'étais ambitieux quand j'ai fait le clip de Patate de Forain où j'ai été dans chaque cité pareil. Filmer chaque rappeur, mettre un coup de poing dans la caméra. Mm-hmm. Les deux que je voulais, c'était Rof et Booba, tu vois.
Ouais.
Et c'était trop encore embryonnaire et c'était pas connu. Le morceau, il venait à peine de sortir en CD. Mm-hmm. Et ce morceau-là a fait du bruit quand il est sorti en clip.
Ouais.
Non, mais là, j'étais en train de faire le clip et j'avais croisé Amadoun et Booba en boîte. J'avais rendu ouf à Amadoun. Tiens, donne-lui un baril est plein. Rof, pareil, j'avais eu tout, DJ Mosco, toute la bande de Manuke, Mista Flo, Dry, Demon One, Rimka, AP, Mokobe, je les ai tous eus. Je ne pouvais pas me trouver un truc de Rof. Et pour l'anecdote, il me disait, ah, en plus, Mosco me dit, j'ai une vidéo de Rof qui met des patates dans une machine à coups de poing dans une fête foraine. Je dis, non, s'il te plaît, rends-moi les rushs, je le mets dans mon clip et tout. Et en fait, finalement, j'avais pas. Après, j'avais abandonné le truc parce que je me disais, ah, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Mais dedans, dans ce clip-là, on peut voir. Avec du recul, c'est dur de découvrir leur visage. On n'avait pas tous les éclairages d'aujourd'hui. C'était filmé au caméscope par moi-même.
Ah ouais.
Ouais. Non, il y a Hill, il y a Zoxy, il y a Danny Dan qui faisait un super coup de poing. Parce que je demande à tout le monde de mettre des coups de poing dans la caméra. Et puis Danny Dan, il dit, mais tu me vois avec mon corps, je vais pas mettre un coup de poing quand même, je vais être ridicule. Et après, il m'a dit, attends, je vais trouver un truc. Et genre, il ramasse du sable par terre.
Oh,
il jette du sable sur l'écran. Et après,
incroyable.
Il met un coup de poing. Genre, ah, ouais, ça, c'est m'a dit.
Il a aveuglé l'adversaire.
Il avait aveuglé l'adversaire.
Il est dans l'art martial, Danny Dan.
Tu vois, tu voulais quelque chose de pointu avec des anecdotes croustillantes. T'es servi, mon driver. Hein.
Vas-y. Ok, donc moi, du coup, moi, je te découvre avec Barry Plein. Mm-hmm. J'écoute. Et j'écoute le morceau. En fait, le morceau avec Cynic, il passait un peu sur Génération.
Oui.
C'est ça.
C'était un morceau avec Cynic, Alibi Montana et Alpha 520. En fait, c'était un Boys in the Hood, il s'appelait. C'était un morceau à plusieurs.
Non, il me semble que c'est un morceau, vous n'êtes que deux.
Ouais, bah alors ça c'est encore plus vieux, c'est Bob de Génération qui le passait. Ouais. Le morceau s'appelait Gangsta World.
Un truc.
Et un mois de moi et Cynic.
En tout cas, vous étiez que deux.
Mais si c'est passé en rotation un petit peu à des heures comme ça, le morceau s'appelait Gangsta World, ouais.
Donc voilà, moi j'ai dû voir ta tête dans une interview quelque part. C'est pour ça que quand on se croise la première fois, je sais qui t'as et tout. Mais moi c'était vraiment ce morceau-là en fait. Et je me disais, tiens, ça marche bien. Cette Gecko et Cynic, ça marchait bien. Et quand je découvre que t'es signé chez Neochrome, à cette époque-là, Cynic était chez Neochrome aussi.
Ouais, exactement. Il venait de sortir son street CD, ouais.
Moi, je me disais, putain, faut qu'ils fassent un album ensemble.
Ah, un album commun. Tu te rends compte qu'il n'y a qu'aujourd'hui, 20 ans après, qu'avec Cynic, on peut se dire, ah, ça aurait été sympa de faire un projet commun, mais tu sais, des fois, ça arrive trop tard. Moi, j'en aurais eu besoin à l'époque où là, Cynic, il cassait les murs.
Ça n'a jamais été dans l'air. À aucun moment, à l'époque.
Non. Mais on a fait quand même, grâce à Yoni, qui devait lui dire, s'il te plaît, tu peux poser pour Seth. Mm-hmm. Et je pense que lui, même à cette époque-là, lui, il préférait... on bossait avec Escobar Maxon, qui avait signé après dans le 45 scientifique. Mm-hmm. Cynic, je pense, même, il préférait Escobar que moi, en fait, tu vois.
Okay.
Parce qu'on était très proche de Esco à ce moment-là.
Okay.
Mais c'est arrivé après... Le truc commun de tatouage, peut-être un parcours aujourd'hui, c'est plus facile aujourd'hui. Mais il a toujours posé Cynic avec les gens. Il allait dans les villes, dit. Il n'a jamais trop fait le PD avec les featuring dans le rap un peu.
Je vois. Donc, ok. Le projet sort. Franchement, il fait du bruit. Et il y a ce morceau Patate de Forain avec ses filles qui est clippé et tout ça. Et Patate de Forain, Sgeg de Poulain, tout le tralala. Mais il y a cette imagerie autour de la fête foraine et des gitans qui commencent à en sortir.
Ouais.
Et tu vas décliner ça
ouais.
à mort. À ce moment-là, beaucoup de gens pensent que t'es gitan.
Ouais, bien sûr.
Et on découvre plus tard que tu ne l'es pas.
Ouais. Mais je me bats à le dire, ça, parce que je ne veux pas induire les gens en erreur.
Bien sûr.
Et je leur dis, je suis autant gitan que Brad Pitt dans Snatch, ou je suis autant gitan que Seth You et Russe. Tu sais, quand il y a Sénégalo-Rousse, Korf, Molotov, c'était ça, tu vois, c'était un univers décliné, hein, parce que les gens, ils m'ont mis dans la case
ça,
Patate de Forain, ah mais c'est un gitan, avant même que moi je dise quoi que ce soit, mot en gitan. Ouais.
Et le problème, c'est que les interviews où t'expliques que t'es pas gitan, elles arrivent tard, enfin, il y a un grand moment où tout le monde se dit, ok, il est gitan.
Bien sûr, mais ils ont fantasmé sur ça, les gens prouvent, c'était un truc
mais
de ouf.
Mais toi, t'as pas eu peur, justement, d'avoir des problèmes avec des gitans par rapport à cette... entre guillemets
ah non parce qu'ils se sont sentis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui Je suis le porte-parole des voyageurs. Je suis le rappeur des voyageurs, en fait. Mm-hmm. Ils ont toujours aimé. Et moi, si je me suis impliqué dans ça et de mettre en avant bah, tous les marginaux blancs, en fait. Okay. Aujourd'hui, je vais vers le délire redneck, white trash, camionneur, les loups en Harley Davidson, les gangs de motards. Tu sais, c'est tout l'univers blanc que je vais chercher, en fait. Okay. C'est pas que la caravane et les clans gitans. Il y avait aussi les forains qui sont dans les fêtes foraines, il y a les gens des eaux, etc. Et je pense que c'était tellement inédit et du jamais vu que les gens, ils ont voulu mettre eux... Non, mais c'est un gitan. Non, mais il habite à Saint-Olomone. Saint-Ouen ! Ouais, Saint-Ouen dans le 93, tu vois. Ils ont fait des raccourcis de ouf. Et en fait, c'est pas plus mal. Mais non, les gitans, ils ont toujours validé ça. C'était un truc porteur pour moi. Parce que je pense que j'avais eu plus... Je crois que le pic du buzz, c'est le moment où tout le monde se dit « Non, mais il y a un rappeur gitan, le rappeur gitan, le rappeur gitan. Ouais. » Les gitans, encore aujourd'hui, 20 ans après, sur Snapchat, ouais, et oui, ils ont le Wi-Fi dans les caravanes, ils me disent « ma race, mon cousin, il croit encore que, tu sais, bah, que je suis un voyageur de sang comme eux et tout. » Mais je dis « Non, mais je suis pas gitan, moi, je suis... Je voyage, mais je prends l'avion, quoi, c'est pas voyageur... » Voilà, c'est plus globe-trotteur que voyageur, finalement. Okay. Mais ils adorent, ils aiment bien, parce que c'est de l'identification, blanc, avec quelques tatouages, ça a dû rappeler leurs oncles, et parce que les gitans, ils se font des tatouages et tout, et puis que je maîtrisais bien le truc du délire tange, en fait. Quand je voulais faire un reportage chez les gitans, j'allais dans un vrai camp de gitans. Quand je voulais mettre des expressions, ça faisait pas... c'était pas un déguisement, c'était naturel, tu vois.
Ouais. Et au final, tout au long de ta carrière, t'as... développer des personnages. J'ai tout doucement, après le gitan, t'es passé le fils de Jack Mess, en référence à...
Ouais, mais Jack Mess a toujours aimé chez les gitans, un peu...
Aimé chez tout le monde, un peu.
Non, mais Mesrine, c'est un peu... tu sais, c'est proche du gang des Hornec, de Montreuil. Ouais. C'était plus le point commun en tout ça, c'est banditisme et marginalité, en vrai. Ouais. Je suis pas passé d'un costume à un autre.
Non,
je te dis pas que c'est
loin.
Ce que tu me dis, mais c'est étroitement lié tout ça. Ouais. C'est les blancs marginaux.
Ouais.
Que ça soit les blancs des squats, que ça soit les blancs dans les camps de gitans, c'est que voilà, que ça soit les blancs du milieu du banditisme. Alors les Corses ou les voilà, il y a l'immigration blanche de tous les Polonais et Yougos qu'on a ici. Donc moi aussi j'ai puisé dans ça pour avoir des nouvelles syllabes et de nouveaux mots qui sonnent bien. En plus moi je suis russe donc j'avais le droit d'utiliser cet univers là. Il y avait les Gechtou aussi, j'ai toujours aimé « Ouh, caraïou, va te fouder !» Tu vois, j'ai toujours fait ça, mais ça n'a pas marqué autant que si c'était un Portugais qui l'aurait fait, qui aurait fait son créneau, le fils Emmanuel de la Trouelle, tu vois ce que je veux dire. Là, ils se sont dit « Ouais, non, mais cette gecko, forain, patate de forain, gitan, Saint-Ouen, l'aumône, Saint-Ouen, 9-3 !» Tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont pas voulu me sortir de ça parce que ça leur plaisait, que c'était nouveau pour eux, en fait.
Mais t'en as joué, du coup.
Bah bien sûr, je dirais, vous en voulez, vous aimez, bah, je vous en donne encore plus. J'ai juste dit forain, vous avez fait tout un pataquès. Alors attends, je vais vous les ramener, les forains, je vais te faire des clips dans les fêtes foraines, dans les camps de gitans.
Okay.
Je vais pas te mettre des Lamborghini, je vais mettre des caravanes du gâteau ou Taber ou Vivaldi. Et voilà, et puis ça, et les gens, ils ont aimé. Après, à un moment donné, je dis, c'est pas que ça. Ça, c'est une facette de ma personnalité, mais il y a d'autres choses que je veux vous faire découvrir, en fait, tu vois.
Et t'es aussi connu pour tes punchlines, très tôt en vrai.
Ouais.
Très tôt, il y en a eu des mois dès le
des barrières pleines, c'est que des punchlines. Après aussi beaucoup la rime. Donc il y a tous les gens qui ont l'oreille affûtée, bah, ils se disent « Ah, c'est l'école néochrome, time bomb ».
J'aimais beaucoup la Subaru.
Les gens m'en parlent encore aujourd'hui, vraiment. Elle est d'actualité en plus aujourd'hui. Hein. Plutôt que de rouler en Subaru, je préfère rouler en deux chevaux avec un cadavre de Schmitt sous la roue.
Voilà. Ça, c'est incroyable.
Après, voilà, le message, il est le même aujourd'hui. Tu vois, c'est All Cops Are Bastards, ACAB. Mais il y a quand même l'exception qui fait la règle. Il doit y avoir deux, trois keufs, c'est des bons, tu vois. Mais ils doivent le savoir que quand on les insulte, on parle pas d'eux, en vrai.
Ouais.
On dit, il y a quelques fruits qui pourrissent le panier. Là, le panier, il est réellement pourri. Et des fois, il y a un ou deux fruits rescapés au fond. Mais généralement, après, ces mecs-là, tu les vois sur Twitter, ils font des trades. Ils disent, non, mais je suis obligé de me barrer. Tout ce qui est monté, il y a quand même... tu vois, il y a beaucoup de racisme dans ce milieu, dans l'école de la police, comment c'est fait.
C'est clair.
Même si là, ils essayent un peu de mettre un peu de couleur. Il y a, tu vois, plein de keufs, des jeunes, des rebeux, des renois, des tismés un peu. Mm-hmm. Pour les villes, si, c'est important pour eux, pour voir le travail d'infiltration. Et ils ont besoin de ça, et puis ça offre des emplois à certaines personnes.
Ouais, mais après, s'ils laissent les autres faire leur truc chelou, moi, je sais pas. Je sais pas s'ils sont bons.
Ouais, mais exactement. Bon. Mais voilà, il y a quand même ça.
C'est un autre débat.
Tu peux le lire, les gens qui disent, non, au cœur de la police, dans les vestiaires, l'ambiance, elle est très, très, très France profonde, quand même.
Ouais.
Voilà.
Donc, voilà. Mais bon, moi, je voulais revenir sur les punchlines. Donc, très tôt, t'as été connu pour ça. T'en as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans chaque morceau. Limite, on les attend.
Ouais.
Tu vois, on met un morceau de Salgeco. Ah, qu'est-ce qu'il va dire?
C'est laquelle qui va être. Ouais. Ouais, exactement.
Voilà. Mais t'as pas eu peur, justement, à un moment, d'être catalogué que pour ça et que tes morceaux, du coup, ils soient plus vivants? Quand je dis vivants, ça veut dire qu'ils racontent plus un truc précis. Qu'on se dit, OK, là, il balance cette phrase parce que derrière, il va mettre une punchline qui va rimer avec la phrase qu'il va dire.
Après, c'était le challenge, c'était
parce
bien.
Parce qu'il y a beaucoup de. Je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup d'artistes qui faisaient que du festival de punchline comme ça, et les morceaux, ils vivaient plus, les morceaux.
Ouais, ouais, mais là, aujourd'hui, à l'heure du turn-up, l'enchaînement de punchline, ça sert, c'est bien. Aujourd'hui, c'est divertissant. Moi, je fais du rap pour que les gens se marrent, ou les choquer, ou les outrer. Il y a des fois, c'est de la provocation. Mais c'est un concours de beat, finalement, comment tu vois le truc. Il y a ceux qui a la plus grosse teub, ou celui qui a le plus gros flingue dans sa cité et tout. Là, c'est un peu un truc de surenchère et tout. Mais là où, là où ça devenait intéressant, c'est que je me dis, dans chaque album, je mettais au moins 5 morceaux sur 20 à thème. Et j'avais encore ce défi de me dire, bah, je vais faire des punchlines, mais au service du thème, en fait, à dire des choses derrière. Et ça, comme je l'ai fait, et ben, des morceaux comme Bistouflex, par exemple, qui sont Rama, mais qui parlaient de la branlette. Un morceau, un couple impair, où je parle... que j'ai grandi qu'avec ma mère, mais c'est rempli de punch aussi. Donc c'est une manière d'écrire et de s'exprimer.
Donc
en fait,
tu faisais attention à ça, c'est ça que je veux dire.
Ouais, ouais, j'ai toujours. Si après, moi aussi, la rime pour la rime, c'est bien. J'aime bien quand la rime et la punchline, elles sont encore plus riches quand elles sont au service de quelque chose de sensé, en fait.
Ouais.
Ça prend encore plus d'ampleur, en vrai.
Tu vois. C'est clair. Si tu as eu. Bon, je saute un peu des étapes, tu vois, on a pas assez de temps pour faire toute ta vie, tout ça, mais il y a eu...
Tu parles beaucoup.
Non, ça, c'est bien, ça. C'est important. Continue. Il y a eu un épisode, il y a eu un virage trap musique, notamment avec DJ Widim, si je me trompe pas.
Ouais.
Tes premiers morceaux trap, c'est avec Widim ou pas?
Même pas. Non, moi, Widim, il a mis du temps. D'ailleurs, comme ça, c'est bien, on développe sur le truc. Widim, c'est précurseur de ouf sur le trap. D'ailleurs, il va changer la carrière d'Al Capote en le dirigeant vers de la trap.
C'est clair.
Mais moi, j'avais pas encore l'oreille sensible à être prêt à poser pour Widim. Et quand il a fait sa première mixtape Boulangerie Française, c'était mon DJ. Il me dit, ouais, je récupère des couplets. Ah non, mais là, j'étais pas prêt encore à comprendre. Et après, c'est quand même quand il m'a fait la prod du morceau Joe Star. Avec le refrain turn up de Chico en or comme Joe et Star. Le
morceau est incroyable.
Voilà, donc sur celui-là, je me suis
tenté. Au micro, quand
au
même.
Au micro, ouais. Ah. Il fait des refrains, ouais, c'est tu en plus, parce qu'il te fournit le banger directement.
C'est ça.
Et moi, c'est un pari, c'est mon manager, il m'a dit fais-le. J'ai dit non, mais mon couplet, des fois, voilà, c'est un choix, des fois, tu faut écouter son équipe ou pas. Et Vincent, qui est derrière moi, il m'a dit non, mais fais-moi confiance pour celui-là, tu verras.
Okay.
Et en fait, le morceau prend de fou et avec du recul, on l'a pas sorti au bon moment. On le sort un an après la sortie de l'album Professeur Punchline, alors qu'il était tellement turn up. Et en fait, ça, c'est des bons signaux de faire un clip un an après la sortie de l'album, mais que ce clip-là, il fait quand même 1 million de vues.
Ouais.
C'est qu'il avait un potentiel que tu l'aurais sorti en promo 3 mois avant.
Ouais.
Tu pouvais faire du 6 millions, 7 millions, tu vois. Et après, on s'est rendu compte de la force des titres de Widim sur les concerts. Il y a vraiment cet esprit, le turn-up, c'est Chico en or, comme Joe Star. Là, tu vois, la foule, elle se retourne, en fait, quand tu
les
fais ça.
Les gens partout.
Plus que le boom-bap. Et c'est ça aussi, il y a des artistes comme Hugo TSR qui ont gardé leur ligne de trucs très boom-bap. Il y en a plein de cette école-là. Moi, j'ai fait des fois, parce que je suis un fan de musique, j'aime bien, donc j'écoute, je m'essaye et je fais le rap que j'aime écouter. J'aime bien le reproduire à ma sauce, parce que c'est différent. Déjà, rap blanc, chant lexical différent et tout. Et c'est ça qui peut être emmerdant. Pour moi, je trouvais quand même tous les mecs de la boom bap, un peu toute l'école, en concert, t'écoutes un mec qui chante, quoi. Tu vois, c'est.
Ouais,
y a pas l'esprit du pogo et du alternatif que j'ai aimé dans le rock, en étant avant un enfant du rap, un petit cousin du rock. Et j'ai vu que cette énergie que pond, les gens ils aimaient bien. C'est pour ça que des gens du métal, du rock, on aime bien cette gecko, tu sais, il est destroy, il est tout fou, il saute en l'air et tout. Et des fois, je peux calmer le show, je vais te faire un titi parisien.
Ouais.
Ça relaxe, c'est bien, t'écoutes.
Ouais.
Mais faire tout un concert comme ça, tu vois, moi, aujourd'hui, quand même, je bosse beaucoup pour ce que ça va donner sur scène.
En live, fait. Ouais. Ok. Donc, là, tu commences... Mais justement, donc,
ouais,
pour répondre Weedim, à la question...
Trap, dis... ouais, en fait, je fais des titres, mais ils sont pas totalement trap. J'ai
mais
du mal.
Mais donc, Weedim, c'est tes premiers morceaux trap. C'est Weedim qui les fait.
Ouais, celui-là, okay. En tout cas, c'est okay. Weedim, bien vu.
Voilà. Mm. Et donc... Bon, tu suis finalement derrière cette mouvance-là. Tu sors des projets. Je vois des singles. Je vois des singles avec Hamza. C'est des trucs qui sonnent sud des États-Unis.
Ouais, c'est complètement ça. Ouais.
Post-it.
Ouais, post-it. Ouais.
Donc tu suis comme.
Mais c'est pas. Je trouve pas que c'est de la trappe pure et dure. C'est des sonorités actuelles,
du
on
sud,
va dire.
C'est ouais, du sud des États-Unis. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Après, trappe, c'est.
Ouais, post-it, ça, il est à fond sur ça.
Ouais.
Puis ça permet à faire du débit. Après, moi, tout a ralenti. Donc tu peux avoir des débits rapides ou des flows rapides et tout, mais. Je me dis, ouais, t'as les gars, ils ont pas de punchline. Donc, du coup, là, c'est vachement aéré. Et là, on entend vraiment tout ce que le mec, il dit. Donc, moi, entendre que Bédo, Moula, Banks, Bendo, ça fait vite le tour.
Ouais.
Là, moi, là, je me suis dit, là, c'est une manière. Parce que des fois, les gens passent à côté des punchlines exactement. Dans le boom-bap parce que le BPM, ça il va un peu vite.
Ouais.
Et t'as pas le temps de tout te les manger. Mm-hmm. Donc, en ayant rencontré plein d'artistes, en bossant avec certains et tout, ils me disaient, t'as, c'est dommage parce que le temps qu'il y en a une qui monte au cerveau, il y en a déjà quatre qui sont passées. Donc, l'écriture est trop riche. Et des fois, la première écoute, quand toi, t'es super fier de ton titre, tu te dis, ouais, mais c'est lourd, tu l'as pas capté, celle-là. Non, il faut plusieurs écoutes et plusieurs relectures. Et des fois, l'oreille est feignante et elle est devenue feignante aujourd'hui. Ce qui est bien, moi, pour moi, cette gecko sur la trappe qui base beaucoup sur la punchline ou les tournures de phrases ou faire de l'esprit ou des jeux de mots rigolos et ludiques. C'est un bon format pour moi, des morceaux un petit peu à sonorité. Je les appelle sonorité actuelle.
Ouais.
La trappe, c'est vraiment, c'est pas la réduire, mais la trappe, ça va pas trop avec punchline ou rime, en vrai. C'est plus un enjaillement, une ambiance,
un état d'esprit.
Ouais. Ouais.
Je vois très bien. Toi, tout à l'heure, tu disais qu'en gros, le moment où le pic de ta carrière, ou le moment où t'as eu le plus de buzz, c'était la période Sad Gecko Gitan.
Ouais.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a aussi eu une période où, justement, on te voit apparaître aux côtés de Booba.
Ouais, aussi, là. Gros pic.
Cette période-là aussi, tu vois.
Bah, en fait, là, je sors de tout le perso Gitan. Il y a tout ce qui se passe. Ça fait sortir une signature. Et avant de sortir un album, bah, maladresse de développement, on sort un best-of et on ressasse encore tous les titres que j'ai déjà sortis pendant 10 ans. Au lieu d'arriver avec du nouveau, du frais, je fais l'album La Chevalière. Dedans, il y a un gros titre super avant-gardiste qui s'appelle Dirty Manouche.
Ouais.
Et que j'aurais dû clipper pour enfin asseoir avec du beau visuel là, cette fois-ci de la raid, des caméras de grosse qualité pour mettre en avant en image toute l'imagerie que j'ai eue, mon passif en fait là, où les gens prenaient un peu pour un gitan. Je pouvais faire un beau clip casse auto, du cambouis qui dégouline mais bien fait, beaucoup plus mature, maîtrise truc et tout. Mais après voilà, l'album, on a mal géré le buzz qu'on a eu. Du coup on sort La Chevalière, ça prend mais pas autant qu'on aurait aimé espérer. Et juste après, il y a le passage Booba Autopsie, qui est après ça, en fait. C'est après l'album. Ouais. Et là, il y a une nouvelle carrière qui débute encore.
Ça.
Tu vois, là, c'est encore une étape. Il y a Sad Gecko Néochrome, vraiment avec son entité.
Comment...
Identité Néochrome. Et il y a la rencontre pour Autopsie.
Comment tu te retrouves sur Autopsie, justement?
C'est Medimed, c'est un mec du 95. Hein,
ouais.
Voilà. Et il me dit... Ouais,
DJ Booba.
Quel DJ de Booba. Et c'est lui qui me contacte, parce qu'on se connaît déjà de l'adolescence, on s'était déjà croisé dans les ambiances Montmorency, Daumont, Soisy sous Montmort, tout ça. Moi, j'allais un peu là-bas quand j'étais plus jeune, mes années collège, donc j'allais traîner là-bas.
Ok. Mais c'est loin de chez toi, ça. Ça, c'est plus proche de chez moi que de chez toi.
Ouais, j'allais.
Ok.
Et du coup, moi, j'ai aiguisé là-bas. J'avais comme une espèce de mentor. En fait, j'étais au collège.
Ok.
Et il y a un mec de Montmorency qui est venu habiter dans notre ville.
Okay.
Il est arrivé dans ma classe et lui, il avait 2 ans d'avance. C'est un mec qui avait redoublé 2 fois. Mais lui, il venait de ce 95 proche de chez toi. Il me disait, oh, mais moi, je suis connecté avec les mecs de radio. Il était connecté en tout. Il avait déjà ken plein de meufs. Et lui, il m'apprenait tout. Je dis, attends, mais c'est où qu'on met son setup? C'est lequel des trous? Lui, il m'expliquait tout. Regarde, nanan, c'est le bon premier fournisseur de films de Huck en cassette. C'est avant Assos d'Assas, on avait un groupe avec ce mec-là qui s'appelait. On était 3, c'était moi, un mec qui s'appelle Mourad, un ami d'enfance, et ce mec-là qui était un entier qui s'appelait Cédric. Nous, on s'appelait les NMC. Donc les MC qui ont la haine, NMC pour Nicolas, Mourad, Cédric, ou Négro, Maghrébin, Céfran, où on avait fait Né du mauvais côté et Ne te mélange pas au connard. Tu vois, c'était un peu le truc NMC, mais. C'était viens, on fait un groupe de rap, mais on n'a jamais fait de chanson. T'as capté ou pas? C'était juste pour avoir.
Je vois.
Bah, c'est pas de se réunir quelque part, parler musique. Ouais. Donc lui m'emmenait à Enghien, mes premières nuits blanches, les premières nuits où je rentre pas chez moi pendant 4 jours, je découvrais les meufs, la sexualité, avec les plans meufs que lui avait. Il dit non, mais il y a des pavillons, des soirées hip-hop dans le 95, il y a des DJ, des trucs. Voilà, là, moi, c'était mon épanouissement. Ça, j'avais 15-16, tu vois.
Uh-huh.
Et du coup, on tombe. Et lui, c'est un meilleur pote de Medimed.
Ok.
Voilà. Mehdi. Et voilà. Et du coup, donc, nous, on se retrouve. Après ce mec-là, il a eu un enfant avec une meuf de ma ville. Medimed, il est venu habiter à Saint-Holomone aussi.
Ah, ok.
Et je sais pas, on arrive à ce qu'il me dit ouais, je fais. C'est moi qui s'occupe de récupérer des titres pour Booba. Ok. Etc. Donc, moi, j'étais content d'ouf. J'ai dit mais c'est toi ou c'est Booba? Je comprenais pas, moi, tu sais. Tant qu'on me dit pas, non, mais c'est la compile de Booba, ça sort, c'était Autopsie volume 2.
Ouais.
Donc on a déjà eu le 1, et je comprenais pas, parce que le 1, c'était pas des inédits. C'est Autopsie 2, où tu commences, il y a que des inédits, en fait.
C'est vrai.
Et voilà, je comprenais pas le concept. Mm-hmm. Du coup, je lui dis, ah, je te donne un morceau déjà sorti. Donc je lui ai donné un morceau qui s'appelait Gavroche Style.
Mm-hmm.
Et après, il y avait une phase sur Morsaï, à la fin, il m'a dit, ouais. Ah non, vas-y, ce morceau, on n'est pas trop neufa et tout. Et je dis, attends, ok, il faut bien que je prenne le truc en considération. Là, c'est Booba, il faut faire des inédits. Ok. Donc là, je me suis reparti en studio et il me restait toutes les chutes de textes que j'avais pas sorties dans mon album Le Chevalier.
Mm-hmm.
Et il y a un mec qui me fait une prod. Et je dis, ah, ça me rappelle du Lunatic à mort. Et là, on n'entend plus Booba dans ses. Il venait de sortir l'album avec Game Over dessus, la 09, je crois.
Ouais.
Et les gens, ils n'étaient pas prêts encore à ces sonorités. Je disais, moi, il faut que je fasse une prod qui rappelle aux gens son époque, Géraldo, 45 scientifiques et tout.
Okay.
C'était un ovni, le titre aussi. Mm-hmm. Et j'ai fait un couplet. Et du coup, au culot, j'ai dit à Mehdi, viens, je te paye ton billet d'avion, viens, on va à Miami, on clip. Et une fois plus, je fais encore mon truc où je mets aux gens au culot et au pied du mur. Viens, j'arrive demain à Bois Miami, je viens faire le clip.
Cette gecko est déterminée.
Voilà.
Il se déplace chez les gens et tout.
Et ça s'est fait. En fait, j'ai réussi à aller à Miami.
Et je sais pas si je mélange ou quoi, mais il me semble que t'apparais dans un clip de Booba, c'est pas la même chose. C'est,
ah, c'est lui, en fait, dans ce morceau-là.
C'est lui qui apparaît dans ton clip.
Voilà, parce que c'est un morceau de sa compile, mais il est en guest et c'est là que ça a pris toute une ampleur.
Okay.
Tu vois, il conduit une voiture, c'est moi qui ai un côté passager qui rappe, il fait mes bacs derrière, tu vois, pour l'image. Les gens, ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, comme Booba, il avait quand même.
Ça a changé beaucoup de choses à ce moment-là. Ouais.
Bah, pour l'auditoire, en fait. Il y a plein de gens qui, peut-être par rapport au physique, des fois, l'identification, ils se disent, oh, on n'écoute pas et dit, ah, c'est Booba le valide. Ah ouais,
Y a beaucoup d'auditeurs qui pensent comme ça.
Ah ouais.
Clairement. Mais ok.
Ah, et voilà, c'est parti de ça. Après.
Ok. Ensuite, tu t'es retrouvé sur un album de Booba.
Il a pas gardé le morceau. Ça, c'était sur l'album Lunatic qu'il a sorti.
Ouais.
On a fait un titre ensemble, mais on n'avait pas abouti à un refrain, etc. Et lui, il a posé dans mon album Michto.
Ok.
On a fait le morceau de Gypsy King Kong.
Ok. Donc, du coup, quand même, il y a eu ce truc où, voilà, vous étiez potes. Au moins musicalement.
Ouais, non, si, on a eu une relation, on s'appelait tous les jours au téléphone, beaucoup. Après, ce qui a cassé le rythme de ça, c'est un passage en prison, une incarcération que j'ai eue pour un méfait, tu vois. Voilà. Et du coup, ça s'est un peu cassé la fibre du truc entre moi et lui. Et après, on s'est retrouvé après à La Réunion, il m'a laissé faire une première partie d'un concert à lui.
Après la prison?
Ouais, après la prison, quand je suis sorti. Mais après, tu vois, il y a des clips qui devaient sortir, ils sont plus faits. Il a retiré un peu les morceaux de ses albums. Tu sens que la casse prison, un peu, elle a joué sur le fait que... Tous les, peut-être les espoirs qu'il avait en moi de se dire, non, c'est pas grave. Il a passé son tour, comme on pourrait dire. Je pense, après, je sais pas.
Ouais.
Ce n'est que mon interprétation.
Et justement, pour revenir sur la casse prison, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment, pourquoi tu te retrouves là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est quand t'es là-bas, tu fais un morceau avec Mister You.
Ouais, j'arrive en... Il y a Mister You, il est en zone prix.
C'est ça.
Et moi,
dans quelle prison vous étiez?
À la santé.
La santé.
Mais moi, j'étais avec You avant qu'il se fasse incarcéré. Donc là, on va plus voir You pour... Il avait une peine de 5 ans à faire, je crois.
Ouais.
Et donc moi, avant qu'il... Pendant sa cavale, moi, je le fais venir pour la première fois à Skyrock. C'est la première fois qu'un rappeur le fasse chanter dans son album. Donc dans La Chevalière, j'invite Mister You. Il est inconnu au bataillon. Il y a après tout l'engouement arrive
j'avais
après.
J'avais déjà un feat avec lui il y a bien longtemps. Moi.
T'imagines?
Bien longtemps.
Toi?
Moi.
Ouais, ouais.
Et moi, c'est un morceau, c'est ouf.
Et du coup, là, ça, c'est un truc qui l'a marqué. Il est humain, You. Grave. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est très connectés et on s'apprécie beaucoup quand je suis pas là. Il y a des gens qui me disent « Ah, il t'aime bien, You. Il parle bien de toi. » Tu vois, ça, c'est super rare dans le Peura, tu vois.
C'est clair.
Et déjà, bah, c'est cool, c'est la même chose. Donc, gros, gros big up à Mister Yugataga.
Bien sûr.
Qui revient un peu là sur le devant de la scène, je vois, il est actif sur les réseaux et tu t'as senti qu'à un moment donné...
Des fois avec des keufs, tout ça.
Ouais. À chaque fois, il est toujours dans des bourbiers avec des arrestations, des bordels.
Ah, il y a un truc, je
et du coup, j'arrive, quand j'arrive aux arrivants, bah, c'était le bienfait de l'incarcération. Je me retrouve avec Mister You, on est là, on pouvait aller, les matons, ils nous laissaient.
Mais vous étiez dans le même coin, pas dans la même cellule quand même.
On s'est retrouvés dans la même cellule,
c'est
mais...
C'est pas vrai.
On nous l'ouvrait, c'est-à-dire on nous ouvrait la cellule, je pouvais aller dans la cellule de You et lui pouvait venir dans la mienne. Et ça, c'était en cours de promenade, cette Gecko et Mister You, c'est incroyable, tu vois ce que je veux dire, je viens, on fait un morceau et tout sur la zomperie, et voilà, ça c'était magique, donc du coup, t'as vu, ça fait un contact en moi.
Vous l'avez vraiment écrit là-bas, le morceau.
Ouais.
C'est
ouais,
ouf ça.
Ouais, il est bon, il s'appelle Zugatas Black. Et ça parle du jour de quand j'arrive. Et lui, quand. Il dit oh là, ça fait déjà 3 mois que je suis là. Et là, je vois 7 qui arrivent dans la cour. Et moi, je commence. Moi, je viens d'arriver et j'entends par la fenêtre. Ah, ça, le gecko. C'est ça le morceau. On raconte nos trucs. C'est magique dans le Peura, ça.
Un truc de ouf.
Tu vois. Parce que c'était quand même deux mondes un peu différents.
Uh-huh.
Et ça se retrouvait. C'était bien street en tout cas.
C'est complètement fou. Il y a un truc aussi qui revient souvent dans ta musique. C'est les punchlines sur le sexe.
Ouais.
Donc, moi, j'ai vu, t'as des relations très, très, très proches avec les gens du milieu du X. Mais tu t'es embrouillé avec Anissa Kate?
Non, même pas.
Comment t'as fait? J'ai vu des trucs sur Internet.
C'était rigolo. Après, avec du recul, quand on s'est rencontrés et tout, elle m'a dit, tu sais, la réponse qu'il y a eu sur Twitter, quand j'avais dit, t'as eu les yeux plus gros que la schneck, comme Anissa Kate, et après, elle m'avait envoyé, occupe-toi de... ton cul et laisse ma schneck tranquille. Après moi j'ai répondu à un truc avec une escalope éclatée,
ouais. Incroyable.
Donc là je m'étais pas fait assassiner en troll, tu vois, j'avais bien trollé.
Tes réponses étaient belles, mais ouais. Je me disais comment tu peux t'envoyer avec elle.
Non, là c'était plus je crée un contact, c'était un plus c'était premier contact.
Une autre technique, une autre façon de faire.
Chacun sa manière. Et du coup quand plus tard on a eu le fait de se côtoyer ou de se voir et tout, elle m'a dit c'était pas moi qui avait répondu au téléphone. Moi je l'ai pris en rigolant de ouf, c'est une casse d'aide, c'est un show out, tu vois, de toute façon je suis une actrice porno, je vais pas m'attendre à ce que des gens ils parlent de ma cervelle, tu vois. Et c'était son mec de l'époque qui lui avait dit ah non mais non, et qui avait vu le danger, en fait il avait vu le danger, il avait senti le barlou dans la basse-cour. Protégez-le, le loup est là, protégez vos poules.
Je vois. J'ai vu. Comment s'appelle la russe?
Anna Paulina,
je l'ai vu avec un tatouage barlou là.
Ouais, mais les gars, lui, éjacule sur l'épaule,
c'est
faire maintenant
ça.
Non, mais.
C'est quoi cette histoire?
Elle adhère, c'est une fille qui est très intellectuelle, mais il ne faut pas la cantonner juste à son personnage d'actrice porno, qui aime bien. La lecture, qui lit beaucoup de livres, tu sais, qui vient d'une bonne famille et qui est vachement instruite, et qui aime bien l'écriture, qui aime bien Aurel San aussi. Elle cite des fois des artistes qui sont bons, elle kiffe. Et elle me dit, moi, j'adhère totalement à l'univers barlou, je kiffe de ouf. Vas-y, je vais venir dans ton salon de tatouage, je me fais piquer barlou direct. Elle s'est identifiée au truc. Elle a compris le lifestyle, elle sait c'est qui les vrais hommes, la virilité, les vikings dans le game. Elle a ressenti cette aura incroyable. Elle voulait en être, tu vois.
Ok.
Elle voulait le barlou dans la peau. Voilà, bah, elle m'a bien senti rentrer à l'aiguille, quoi. J'ai planté ma grosse aiguille dans sa peau.
Très bien, je vois. En tout cas, tout au long de ta carrière, on sent que tu as une vraie culture. X.
Ouais.
Tu cites plein de noms.
Ouais, bah oui.
Incroyable, old school, new school.
Ouais.
Là n'est pas la question, comme dirait.
C'est ça, comme disait Roca.
Roca. Donc, ok, cool.
Voilà. J'ai pu te citer Kaja Kassin, qui était une rookie de l'époque, et aujourd'hui je peux te citer Luna Colasson.
Je suis perdu, moi. Avant, voilà. J'étais pointu, tout ça.
C'était pointu, ouais. Mon slip est toujours pointu quand il s'agit de porn culture.
Je suis perdu. J'aimerais qu'on parle de la Thaïlande, parce que t'es parti vivre là-bas pendant combien d'années?
Ça a à peu près 10 ans d'aller-retour.
Ah ouais, quand même. Ok. Donc. Qu'est-ce qui...
Et ça, encore renouveau, tu vois, ça redonne un coup de nouveau.
C'est clair.
Parce que c'est ça qui me fait aimer les sonorités actuelles. Quand tu me dis du rap, ce truc, parce que j'avais mon bar, on passait de la musique. Et je sentais que les gens étaient plus dans le groove, en fait, d'écouter ce genre de musique-là. Tu vois, les Travis Scott, tous ces trucs-là. C'est pour ça que vers du Hamza, moi j'adore Hamza ce qu'il fait. Moi parce aussi. Qu'avant de bien chanter, il faisait des rimes multisyllabiques en chantant. Donc ça, c'était très rare. Mm-hmm. Qu'un mec un peu proche du. Qui frôle avec le R&B, on va appeler ça comme ça. On va dire Cloud un peu, tu vois. Mm-hmm. Qui faisait des rimes, donc ça, ça m'a interpellé. J'aimais beaucoup. Et comme je me suis dit, ah, j'aime bien le morceau Pick Up the Phone. J'adorais ce morceau de.
J'adore ce morceau.
C'est quoi dessus? C'est Quavo, Young Thug et Travis.
Ouais.
Je dis, ah, attends, je vais le faire le mien, en fait, tu vois. C'est... Mm-hmm. Et je voulais pas que, entre deux clips Quinry dans mon bar en Thaïlande, où on passait beaucoup de rap Quinry et français, mm-hmm. j'aimais bien être le seul rappeur quand un Quinry regardait l'écran. Il n'y avait pas de différence entre, ouais. Au niveau du charisme, au niveau de la musicalité et tout, et que des fois, tu pouvais mettre un clip comme Titi Parisien, un étranger, tu sentais, il pouvait aimer le groove du boom bap, parce qu'automatiquement, elle fait hocher la tête. Mais moi, dès qu'une instru, qu'elle soit South ou New York du Queens, tant que ça fait hocher la tête, le son, il est bon pour moi.
C'est clair. OK. C'est quoi le déclic qui t'envoie vivre en Thaïlande?
Bon, l'envie de changer, de vivre un nouveau truc. Hein. C'est le pays. De toute façon, c'est quand il goûte que tout le monde... La première fois que j'étais parti à Miami, je me suis dit, ah, j'ai envie de vivre ici aussi. Ah, faut que j'ouvre une boulangerie. Tu vois, c'est, je crois que c'est tous les Français qui disent ça.
Tous les Français voulaient être boulanger aux États-Unis.
Ouais. Et en Thaïlande, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Sauf que là, j'ai vu, il y avait des bars tenus par des Français qui avaient le même âge que moi, qui n'avaient pas forcément des milliards d'euros. Mais ça leur permettait juste de vivre là-bas, en fait. Ils le faisaient pas pour...
Devenir millionnaire.
Il le faisait parce que voilà, ça te permet de vivre sur place. Mm-hmm. Si c'est un pays où je peux continuer à rapper, parce qu'il y a des studios. Imagine, putain, je monétise. Après, je me suis dit, bon, alors, attends, là, dans le rap, j'ai pas l'argent que j'aimerais avoir. Et tout le monde veut faire des photos avec moi, parce que le personnage était fort depuis le truc gitan, un peu la connexion avec Booba, tout ça. Mm-hmm. Là, je suis arrivé dans une île où il y a beaucoup de Français en vacances. Mm-hmm. Comment je peux monétiser le fait que quand je vais dans un bar, tout le monde fait des photos avec moi. Et du coup, ça fait consommer les mecs dans les bars que je fréquente. Je me dis, putain, imagine le truc de ouf. J'ai pris mon nom Seth Gecko d'un film qui s'appelle Une nuit en enfer, où Tarantino, il donne rendez-vous à des faussaires mexicains dans un bar à gogo aux frontières du Mexique, qui s'appelle le Titi Twister. Je viens en Thaïlande, il y a des bars à gogo avec la décoration du film Une nuit en enfer. Je regarde mon pote, je dis, mais t'imagines le rêve de ouf, j'ai mon propre bar et j'en parle comme un rêve. Et voilà, moi, mes rêves, au-delà de les caresser, je veux les sodomiser avec du sable, frère. J'ai été jusqu'au bout du truc. J'étais un putain, et puis j'ai trouvé un investisseur, un mec qui avait déjà des affaires sur place. Mm-hmm. Il m'a vu venir, il m'a fait du pied, il m'a dit, regarde, t'aimes bien la Thaïlande, tu vas avoir un enfant, t'es avec une Thaï, et tu devrais... Vas-y, moi, je crois en toi. Est-ce que t'es chaud? Tu prends tes économies de France, t'investis avec moi, parce que comme ça, t'es impliqué. Tu partiras pas au bout d'un an.
Ouais.
Il pouvait me tenir un peu par ça. Il m'a dit, viens, on investit tous les deux et on fait un bar et tu vas gagner en image de fou. Il y aura ton nom sur la plus grande avenue de Thaïlande. Et puis, je suis devenu un incontournable. Et en fait, mon rêve, il s'est réalisé, en fait.
Tous les Français qui étaient là-bas, ils passaient.
Tout le monde. Et à la fin, je suis parti au moment où les Français, bah, ils ne passaient plus parce que tout le monde a compris que je pouvais ouvrir un bar hip-hop, que tous les week-ends, ils mettaient un nouveau rappeur. C'est-à-dire au début, ils se sentaient obligés de passer, les mecs. Mm-hmm. Mais à la fin, une fois de plus, il y a des gens qui arrivent avec leurs grosses chaussures qui écrasent un peu sur les nids de fourmis en disant « Ouais, mais on n'a pas besoin d'aller le voir, lui. C'est pas lui, la Thaïlande. » Et dès qu'il y a eu un peu cette ambiance-là, où les mecs, « Ouais, on passe devant son bar, mais on regarde même pas, on n'y va pas. »
Et ça, tu parles, c'est des Français,
des rappeurs français. Des rappeurs français.
Des rappeurs français, ok.
Je dis, c'est pas normal, frère. Vous êtes là... C'est très bien, je fais un truc inédit, la Thaïlande, c'est moi, j'ai marqué mon territoire. Quand il y a des mecs plus gros qui s'accaparent le truc sans donner de la ce fort, moi, je l'ai pris, c'est offensant un peu. Je te demande pas un featuring, là. C'est, tu viens, tu passes, tu bois un coup, on se check, et ça tue, ça fait vivre le truc.
Bah ouais.
Et du coup, après, dès qu'il y a les gens, ils commençaient à s'accaparer mon petit coin de paradis, bah, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais retourner en France. Quoi. C'est là que j'ai switché. Mais je revenais pour faire mes tournées, je revenais pour la promo des albums et tout. Mais ça m'a permis aussi de faire plein de feats. Quand Gradur, il est passé là-bas, j'ai fait un feat avec Gradur et c'était inattendu.
Ah, vous l'avez enregistré en Thaïlande?
Celui-là, il est fait en Thaïlande. Avec Niska aussi, c'est une connexion en Thaïlande. Voilà, plein de tout.
Tu n'avais pas besoin d'aller dans leur quartier.
Cette fois-ci, là, non.
Ils étaient chez toi.
Ils étaient chez moi.
Voilà, ok, cool. Et justement, tu dis que tu es revenu en France. Moi, il y a quelques mois, avant le confinement, je me suis retrouvé à Lille. Je devais faire un truc, un show, justement, avec Freeze Corleone. J'ai vu que tu avais collaboré avec lui.
Ouais.
Et quand je passe là-bas, je suis là-bas l'après-midi avec les organisateurs du concert et tout. Et Il y a un mec qui me dit, ouais, cette gecko, elle était là il y a 2 jours. Et je crois qu'il ouvre un restaurant et tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah là, alors lui,
tu lances une chaîne de restaurants en France?
Voilà, ouais. Alors, donc, quand je suis rentré en France, j'ai ouvert un salon de tatouage. Donc, ouais, j'avais mon bar en Thaïlande, j'ai ouvert mon salon de tatouage. Mon associé me dit, ouais, mais t'as vu, maintenant, t'es plus là. T'es trop occupé à aller en France avec ton salon de tatouage. Je dis, ah, mais voilà, en fait, maintenant, c'est le manque à gagner. Quand je suis en France, il faut que je gagne de l'argent. Quand je repars en Thaïlande, je peux jongler, en fait. Tu vois, la Thaïlande, j'avais perdu de ma... C'est bien quand un artiste, il garde sa mysticité un peu, tu vois.
Ouais.
Mais le mythe, quand je devenais trop abordable, c'était bien qu'on recrée la magie. Tu peux aller en Thaïlande, mais là, tu me vois peut-être pas.
Ok.
Je suis revenu un peu, mon associé était plus... Ouais, mais le bar, et du coup, quand moi, j'étais plus en France, le bar, il tournait un peu moins. Donc, ça sentait que c'était la fin. Il y avait une page qui devait se tourner. J'ai ouvert mon centre tatouage. Il a tourné pendant 1 an. Après, je me suis dit, putain, j'aimerais trop, il faut que je fasse un truc pareil. Moi, j'aime bien trouver des associés. J'aime pas mettre mes œufs dans le même panier. Et je suis pas, moi, un spécialiste de la restauration. Je suis juste un mec qui est très fort en com. Alors, je me jette des fleurs, t'inquiète. Mais t'as le droit, t'as le droit. Ça. Et je trouve le gars qui me dit, moi, je voudrais un truc. Je suis dans un restaurant africain, je parle de mon projet. Il y a un mec à côté, il me dit, mais moi aussi, je veux ouvrir un restaurant thaïlandais.
Tu le connais pas du tout,
non? Non, je connais pas. Après, j'ai dit, ouais, mais je vais t'écraser si j'ouvre un restaurant thaïlandais. Il me dit, non, mais je te dis pas ça pour qu'on rentre en conflit. Il me dit, mais ce serait pas l'idée qu'on ouvre à deux le restaurant.
Il sait qui t'es, toi?
Ah, bien sûr, il sait que je suis qui dans la ville. C'est un rappeur, c'est un mec de la ville, tu vois.
Ok.
Et après, je lui dis, mais j'ai fait tous les locaux. J'ai fait tous les locaux, il n'y a aucun local. C'est un combat de coq à ce moment-là. Il me dit, mais là, entre ici, où on est, et ton tattoo shop, donc qui était à 5 mètres, il me dit, j'ai un local. Je fais, non, c'est pas possible. Je les ai tous fait avec l'urbanisme à la mairie. J'ai un local. Il me dit, tu veux que je t'emmène tout de suite? Et dans le restaurant, il y a une porte qui mène à un autre mur. Et derrière, c'est un autre restaurant, il n'y a rien. Il me dit, j'ai déjà les locaux. Je dis, ben voilà, bah viens, on l'ouvre ici, le restaurant. Il me dit, vas-y, c'est parti. Puis depuis là, 1 an, ça explose tout.
Ok.
Et là, du coup, là, 1 an après, j'ouvre un nouveau truc, le Barlow Burger. Et comme j'ai une grosse base fan à Lille, et souvent, je fais des séances dédicaces dans les shops de protéines, des restos, je donne de la sophore et tout. Okay. Mais je laisse entendre planer que si je devais ouvrir un truc, pas en franchise, mais moi, ou en ouvrir un deuxième, ça serait dans le Nord, parce que ma femme, elle est de Dunkerque. J'ai une grosse base fan à Lille. Et dans le Nord, vraiment eux qui soutiennent et qui aiment bien le personnage, même plus que le rap, on va dire.
Donc il se pourrait que...
Ouais, qu'il y a un truc qui s'ouvre là-bas. Mais bon, en attendant, là, j'ouvre un nouveau resto dans 2 semaines.
Ok.
Voilà, qui s'appelle le Barlow Burger. Et c'est collé encore à mon tattoo shop, à mon restaurant thaï.
C'est où tout ça?
Pontoise.
Ok. Très bien. Je voulais qu'on parle aussi, bien sûr, de ton fils qui rappe.
Ouais.
Incroyable. Donc là, on est quand même arrivé à assez d'années de rap pour qu'il y ait le père et le fils sur le même morceau.
Ouais.
C'est beau, ça.
C'est magnifique.
Comment tu découvres qui rappe la première fois?
Moi, c'est un pote qui me dit, t'as écouté un pote à qui je m'entraîne à la muscu et qui aime bien mon fils, tu vois.
Okay.
Le mec, c'est un Renoir et comme mon fiston, il est métis, il aime bien, tu vois. Il aime bien, il est derrière, il le pousse un peu et tout. Parce que mon fils, il est automatiquement connecté avec mes potes. Après, il me dit, ah, ton fils, il fait office de tonton, on va dire, ce mec-là. Okay. Il dit, ouais, mais ton fils, il rappe. Vas-y, ne dis pas que je te l'ai dit, il va être dégoûté. Il dit, ah oui, il rappe, il rappe bien au moins. Il me dit, non, il est fort et tout. Il dit, ah ouais, je vais le niquer, lui.
C'est la question.
Ah ouais, parce que ça, c'est ma hantise de me dire, moi, je me suis cassé les couilles. J'ai juste eu ça, moi. J'ai une couronne d'épines sur la tête du roi de la punchline, mais ça reste un roi sans couronne, finalement. Et à part la couronne des chiottes, voilà. Et du coup, je me dis, non, mais il se met là-dedans et il fait des rimes au moins. Ça. Mais après, mon pote, il disait à mon fils, tu rappes, c'est bien, mais ton père, il sait, il va te niquer. Il dit ça. Mais il va te niquer, on se comprend, c'est rigolo. Ouais. Ouais. Et puis, j'écoutais, c'était pas mal. Après, il s'est un peu émancipé, il a fait les trucs tout seul de son côté. Il n'y avait pas encore un truc qui m'avait troué le cul. Puis un jour, je suis en studio, dans mon album, il est avec moi parce qu'il me suit ma carrière et tout de près. On met une prod, mais on dirait qu'ils m'ont fait un coup ce jour-là. C'est un pote à moi aussi de la famille qui a fait l'instru. Il dit, oh, tiens, j'ai fait une prod, Après, le petit dit, ah ouais, elle est bien celle-là. J'ai dit, ah ouais, lourd, fais un couplet, voir. On va voir, je suis en studio. C'était chez Core, non? Et après, il balance un couplet, ta 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 ta, nanana, il s'arrête pas, il fait un gros 32 mesures. Ah, mais il est bien ce couplet, wesh. J'y vais le poser en cabine. Là, c'est un gros studio. On va voir ce que ça donne quand toi, t'es encadré par des professionnels. Donc, c'est vraiment sur un coup de tête qu'on fait le titre. Il pose en cabine. J'ai dit, vas-y, je vais te faire un refrain. Mais moi, pas genre, j'y crois pas. Je mets pas, pas de volonté. Mais dans les rimes que je cherche, je fais pas Je me dis pas, je bosse un refrain pour faire un hit ou un single. Je dis des mots bagatelle en parlant d'une paire de Cartier qui s'appelle le modèle bagatelle. Mm-hmm. Ouais, bagatelle. Je lâche comme ça. C'est pas tout le monde qui peut connaître la référence. Uh-huh. Dedans, je parle en thaïlandais, je dis toujours en garde comme un takatem, qui veut dire c'est la montre religieuse qui prend une position de garde comme en boxe thaï. C'est ce qu'on dit quand tu fais de la boxe thaï, t'es en position montre religieuse, tu sais, avec leurs bras un peu comme as. J'ai position takatem. Tu vois, les trucs, les mots, ils sont pas super simples. Je dis vas-y, mais bon, j'aime bien mes rimes, moi j'ai senti l'ambiance du moment, en fait. On le fait, on le met dans l'album, mais en fait, le morceau, il a des retours de fou. Tout le monde dit, ah, le morceau, le truc, on le clip un an après, je sais même pas pourquoi on fait ça. Le morceau, il fait 2 millions de vues en 5 mois. On dit, ah ouais, mais en fait, ils ont. Et quand on le fait sur scène, je vois, c'est le morceau qui explose le plus de tout mon show de 1h30. Je dis, non, mais attends, là, mon fils, on tient un truc, là. Après, voilà, donc j'étais derrière lui, et dès qu'il fait un texte, j'essaie d'intervenir un peu, pas pour le retoucher, mais fais l'effort, quand il y a des morceaux peu rares, d'être au moins au niveau intelligible des gens qui m'écoutent et qui m'aiment bien pour ma plume, tu vois. Et par contre, lui, là où il est fort, c'est les mélodies, il chante et ça, ça rend des titres mainstream. Et là, il peut m'emmener où j'ai jamais été, tu vois.
Ouais, je vois. Et toi, en tant que père, tu t'es jamais dit bon, le rap, c'est quand même un milieu difficile, j'aimerais pas que mon fils soit dedans, tu t'es pas dit ça?
Ils veulent tous être rappeurs aujourd'hui. Je préfère qu'ils me disent je veux faire ça, qu'il soit sur le rinté à Bicrave. Et au moins, il est avec moi, il est en compagnie de son père, il est entouré par des pros, on croit en lui. Et on fera tout pour que ça marche, tu vois. Je trouve que c'est une opportunité aujourd'hui. Regarde, des mecs éclatés, ils émergent et ça fonctionne. Ouais. Lui, il a l'équipe qu'il faut. Il marche sur les traces de son père, tu vois. On essaie de lui dire dans les habits, démarque-toi, t'habilles pas comme les autres. Je fais des tatouages, il aime bien, il me suit à la muscu. Il y a une vraie complicité. Moi, je m'en rends même pas compte. Pour moi, on n'est pas plus complice que ça. C'est mon fils, je suis son père. Des fois, je l'engueule. C'est pas tout le temps rose. J'ai, il rote à table. J'ai, arrête de roter, gros dégueulasse. Alors, je pète toute la journée. Mais tu vas dire, c'est qui? C'est plus une relation de pote, mais les gens qu'on a en studio, il rentre en cabine, il va pisser, l'ingénieur de son, il dit, mais c'est un truc de ouf la complicité que t'as avec ton fils, je rêverais d'avoir ça avec mes enfants. Donc je me dis, voilà, c'est magique, c'est un moment qu'on vit et tout, et voilà, on est derrière, on le pousse pour ses études. Pour moi, j'aimerais bien qu'il ait le bac en minimum.
Ouais.
Parce que imagine, c'est un bon bagage à avoir minimum quand, si la musique ça marcherait pas, mais on va tout faire. Il rappe bien, il chante bien, il a une bonne gueule. Il a tous les bons ingrédients pour faire la sauce.
C'est cool, c'est cool. Moi, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. Moi, j'aimerais, par rapport à toute ta carrière, moi, il y a plein de morceaux que j'ai kiffé de toi.
Ouais.
Mais il y a un morceau vraiment, il arrive à un moment de ta carrière où je me dis que c'est les plus de jus, ce serait normal, il a envoyé beaucoup de morceaux.
Ouais.
Mais là, t'envoies un morceau, je me dis, oh.
Ah ouais, vas-y, c'est lequel?
Maître de cérémonie.
Ah oui, il est incroyable celui-là. Pourtant, il fait pas de vues. Ouais, une grande déception pour moi de ça, de me dire putain.
Morceau est dingue.
Ouais,
vraiment.
Chiant, mais que tu me parles de
dingue. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, ok. mec, il a toujours l'énergie, toujours les.
Je vais te raconter l'histoire de ce titre-là. On sort de l'album Professeur Punchline. Pareil, on mise pas un copec sur le morceau Titi Parisien. On fait le clip, il peine à faire le million. Pendant mon voyage en Thaïlande, Vincent, il bosse, il me dit, j'ai une idée, laisse-moi faire un remix. Tu me parles de remix. Ouais, mais je voudrais bien Nekfeu et Oxmo Puccino. Je dis, non, mais Nekfeu, il est un peu en bas. Un jour, j'ai dit, le rap contender, c'est baltringue et tout. Ça. Et ça se trouve, mais non, vas-y, je lui demande même pas si c'est pour qu'il dise non, ça va me foutre le seum et tout. Non. Et après, un jour, il m'appelle, il me dit, c'est bon, Nekfeu, il a posé, Oxmo, il a posé, tiens, je t'envoie les voix.
Lourd. Tout géré de son tout côté, le manager. Côté.
Lourd de ouf, hein. Ça, c'est incroyable. Un beau cadeau de manager. Ah. En tout cas, moi, j'aurais pas eu le courage.
Le remix de Titi Parisien, incroyable.
Donc, on sort le remix hors album. Ouais. Et là, il fait 14 millions de vues. Là, la maison de disque, elle me dit, ah non, mais j'aime trop ce courant-là. Je pense qu'il y a une carte boom bap avec toi, cette New York qui te va bien, Titi Parisien et trucs New York et tout. Et là, ouais, t'aimes bien. Et mes producteurs, quand. Tu sais, je prends pas une prod comme ça, c'est pas des coups du hasard. Quand j'en prends une palette, j'en prends au moins 3-4 pour avoir de la matière derrière. Tu vois, après, je vais faire aussi le morceau Paris Street avec Cool Chain, Cynic, Jazzy Bass, Seth Gecko dans la lignée. J'ai fait aussi le morceau avec Gizmo, Professeur et le Renard, qui est toute ma palette de 5 sons que j'ai pris, de, si je voulais faire un EP boom bap titi parisien, je l'avais, et New York.
Et ça a pris sur internet ces
alors du coup, je le fais, ce morceau-là. Ouais, on tape dans le million de vues à chaque fois, mais c'est le minimum syndical, mais quand je vois les mecs, ils font des... Faut même pas se comparer, parce que c'est un truc de fou. Mmh. Et du coup, et là, on fait encore une erreur, sur l'album Barlou, le premier titre qu'on envoie, non, c'est le premier ou le deuxième ? Ouais, je sais plus. Maître de cérémonie, je fais, ah, mais t'as aimé ça ? Mais t'as aimé Titi Parisien, mais je t'en refais un autre, encore mieux. Mm-hmm. Je te fais un autre et tout, et je lui ramène ça. Et ça me sert encore à rassurer la maison de disque. Ouais. Quand je leur ramène Maître de cérémonie, ils me disent, non, mais là, c'est sur celui-là qu'il faut miser. Donc, j'ai fait un peu Titi Parisien, mais à New York, en vrai.
Ouais,
tu vois, donc j'ai... Et on misait sur ça, et c'était pas sur peut-être celui-là qu'on aurait dû miser. Après, on a fait un gros feat avec Caris qui est sorti hors album. Tu vois, des fois, il y a des trucs de timing qui font que... J'aime plus aujourd'hui être suspendu au truc de devoir... de rendre des projets, tu sais, dans le temps. Aujourd'hui, j'ai une carrière, non, mais j'ai plus besoin de faire
en
ça.
En plus, fait. Avec le streaming, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Je vois, il y a des gens, ils sortent un album.
Mais moi, j'aime pas ça.
Un mois plus tard, ils sortent un single qui n'est pas dans l'album.
Tu me parlais tout à l'heure, on passe de la cassette au streaming. Ouais. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai besoin que tous mes morceaux, Titi Parisien Remix, il est sur aucun CD. Ben, pour moi, il n'existe pas, en fait. C'est un morceau du net. C'est en streaming, ça veut dire quoi, le streaming ? Il faut le toucher, le morceau, il doit avoir un objet. Moi, je suis de cette génération-là c'est où ça, j'ai besoin de matérialiser la musique.
On s'en fout aujourd'hui.
Ça se met, c'est un bol objet de décoration, ça se met sur... Tu vois, c'est de la culture que tu... Un ami vient chez toi, fais voir ce que t'écoutes, il voit... Personne va prendre ton téléphone, fouiller ton Spotify. Ouais. Tu vois, là, c'est... Regarde, j'ai ça, fais voir la pochette. Attends, il a dédicacé qui ? Ah, j'aime bien qui a fait la prod à 500 de qui ? Tout ça.
Moi, ce que tu dis, ça me parle. Ouais. Je suis de cette époque-là aussi.
Ouais, mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens du rap qui sont plus passionnés.
Non, mais c'est même pas passionné ou pas, c'est qu'ils sont pas nés là-dedans, en fait. Mais non, l'objet, il n'existe pas.
Ouais, mais t'as besoin de t'intéresser, il faut être passionné. Mm-hmm. Ils sont passionnés par les culs de meufs, ils vont tous avoir le CV, ils vont te le ressortir, t'inquiète pas. Bon, là, c'est générationnel, c'est sûr, mais je trouve que c'est moins fait par des passionnés. Aujourd'hui, il y a un gros effet de mode rap où les mecs se disent, ah lui, il a réussi. Ben, tu vois bien, la succession, ça pousse comme des champignons, les rappeurs. Ils sont nuls, éclatés contre le sol, mais ça marche parce qu'il s'est ouvert aujourd'hui que ce rap un peu. Ben, simplet, eh ben, il parle à des gens parce que les auditeurs ont l'oreille feignante aujourd'hui. Ils vont même plus faire l'effort d'écouter comment t'écris, ils s'en foutent. Ils veulent se laisser bercer par une vibe, en fait, aujourd'hui. Ouais. Moi, j'écoutais pas du rap pour me faire bercer par une vibe. Mm-hmm. J'écoutais pas ça, j'écoutais pour écouter comment le mec il jouait avec les mots, s'il utilisait des mots de mon vocabulaire, qu'il m'apprenait. On a la culture des fringues. Quand on entendait, il parlait des sébagos, c'est quoi sébagos ? Ouais, c'est des bateaux, après on en a porté. Mm-hmm. Ouais, les. Lunettes quartier, wesh, dans le quartier fraîche, wesh. Tu vois, des fois, il parlait de code, de... Tu parlais de West Coast, là, tu vois, il y avait la culture du Coast, là, du Takini, il y avait tout un truc. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est survêt de foot ou sponsor Kawasaki, rose fluo, queue de cheval. C'est... Pff, ouah, je comprends plus, je suis du père, carrément. Je comprends pas. Je sais pas, il y avait un truc... Fallait avoir du style. Tu pouvais pas être même... Déjà, les mecs qui écoutaient du style du rap, c'était nous qui avions le plus de style, qui avions le plus de style. Mm-hmm. Tu sais, il y avait un package, en fait, tu vois.
Je vois ce que tu veux dire.
Mais... Aujourd'hui, je trouve que c'est devenu un truc tellement pop et tellement... Et j'ai une phrase magique pour moi conclure cette interview et qui va résumer ça. Et c'est devenu trop de la musique pop. Ouais. Et moi... Je fais de la musique populaire, c'est pas la même chose.
Je vois très bien où est la nuance.
La musique du peuple et de la musique pop, c'est pas la même
c'est
chose.
C'est pas pareil. Mm. C'est cool. Moi, juste, je voulais terminer
sur
maître de cérémonie.
Génial.
Dire que moi, c'est un pote à moi qui me dit « Driver, faut que t'écoutes ça ».
Ouais.
Et il me met le clip, en fait.
Et, il est incroyable, ce clip.
Et le truc qu'il me dit, en fait, et qui me fait m'asseoir et regarder avec attention, c'est qu'il me dit « Cette gecko, il connaît Trey the Truth.
T'es un peu le Trey the Truth. J'ai fait rimer Trey the Truth avec Trey de Schnouf quand même.
Quand il me dit ça, même moi je dis.
Ah ouais, t'aimes bien ça toi, tous les Houston, Texas.
Je suis un grand fan de Houston, toute cette scène là. Et quand il me dit ça, je m'assois et je dis mais pourquoi tu dis ça ? Il me dit écoute et là je tombe sur le refrain, je dis non. Ça, c'est mon morceau. Ah, et au final...
Tu m'en as reparlé dans un interview, je crois, en vrai.
Je crois, dans la sauce sur Rotten. Ouais. Je crois que c'est mon morceau préféré de ta carrière, au final.
Magnifique. Tu vois, il arrive pas au début.
Voilà, il arrive tard. Et c'est ça sur ça que je voulais appuyer. Ouais. C'est qu'à ce moment de ta carrière, que t'aies moins de jus, c'est normal. Je peux le comprendre. Ouais. Quand t'en vois.
Ouais. Mais j'en ai encore sous
le
coude.
Et en fait, non, voilà. Et ça, c'est beau, ça. Donc, vrai. Longue vie à cette gecko.
Donc, on peut enchaîner les éjaculations. Enfin, il y a quelques gouttes suffisent, comme dirait Arsenic.
Elle est belle, mais celle-là. Elle est
tu peux les enchaîner. Elles font mal sur les dernières. Il y en a un peu moins de jus qui sort, mais t'inquiète, si tu presses bien, les couilles, t'inquiète pas. Ça se presse, c'est comme le citron.
C'est ce que tu viens de dire sans faire exprès, c'est incroyable. Parce que t'as dit quelques gouttes suffisent comme Arsenic.
Ouais.
Et t'as dit si tu presses bien mes couilles.
Voilà, le PBMC, qui était le crew d'Arsenic, qui presse bien mes couilles. Mes frères, tu crois que.
C'est beau.
Même quand je te parle, beau, je fais pas des punchs, tu crois, mon vieux. Et en fait, ça pouvait dire aussi les plus beaux mecs du quartier.
Du continent.
Ah, du continent, ok.
C'est ça. C'est beau, tu dis. Quelle culture. Cette gecko, en tout cas, on te remercie. C'était cool d'être venu ici, featuring.
Bouillante culture.
C'est cool, ouais. Ça aussi, la référence.
Ah, Bernard Pavot. Ça, c'est spontané. Hein. Je ne les ai pas écrits.
Incroyable, incroyable. Merci à toi d'être venu, en tout cas. Et on se dit à la prochaine émission avec un autre invité. C'était featuring Driver.
Voilà. Je ridiculise les MC, je fais des Laurent Bas featuring.
Featuring est un podcast original Engel. Présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovitch Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.